9h, dans le bureau de Parjupiter.
Il est bien puzzlé celui-là.
Il est trop beau, ton avion. C'est pour ça que t'es arrivé si tôt.
Bah ouais, j'ai lu un article comme quoi il y aurait un concours international d'avions en papier.
Mais non.
Et oui, et comme Charline elle est pas là, eh ben je me dis ça me semble être une bonne journée pour lancer des avions dans le bureau.
Ah ouais, et t'es pas mauvais. Et mais ouais. Je vais te dire, ça suffira pas.
Quoi? Alors j'ai un petit niveau.
Pas autant que moi. Moi j'ai fait de l'UNSS avion en papier quand j'étais en 4e. Après je suis passé régional et j'étais pas loin d'aller en pro.
Ah bah je croyais que tu prenais pas l'avion, monsieur l'écolo.
Ça j'en fabrique en papier et recyclable.
Alors, allez, fais voir comment tu fais.
Et voilà, regarde-moi ça.
Oh, l'aileron est un peu court.
Tu vas voir s'il est court. Allez hop, décollage.
Salut les garçons. Aïe.
Oula, il y a eu un crash.
Non mais ça va pas te lancer des conneries hein.
C'est des F-16 quand même.
Mais on croyait que tu voulais pas que t'étais en vrac.
En repos, Charline, on croyait que t'étais en repos. Oui.
Mais qu'est-ce que vous cachez derrière votre dos là? Je vous prépare une surprise. C'est un cadeau pour moi. Allez, faites voir.
Non mais attends.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais alors, c'est pas non, ce que tu crois, Charlie.
On n'a rien fait du tout.
Mais vous rigolez, j'espère, là.
Pardon.
Mais ça, c'est du travail de sagouin, ça.
Quoi?
Bah, je m'y connais, j'ai été championne de la Louvière 97, 98, 99. Oh, bah, bien sûr. Allez, hop, regarde. Hop, tac, tac, tac.
Oh là là.
Rigolage.
Oh la vache.
Mais c'est arrivé dans le bureau de Jean Lebrun.
Bah oui, mon avion est donc entré dans l'histoire, hein, si on peut dire. France Inter et bienvenue au sein du comité d'entreprise de la blague. Voici la devise du jour, tout vient à point, à qui sait attendre un gouvernement. C'est bien placé pour faire cette petite citation. Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline.
Vous poursuivez la lecture du roman de Maurice Sachs, Le Sabbat, récit d'une jeunesse orageuse. Maurice Sachs, vous l'avez rappelé la semaine dernière, est un auteur qu'on peut classer dans la famille des affreux, qui aurait donc pour chef de file Céline.
T'es juive, c'est ça? Hein? T'étais obligé d'être juive? Tu pouvais pas choisir autre chose, genre française?
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline, bonjour tout le monde.
D'habitude, vous battez le pavé. Cette fois-ci, vous avez battu la moquette en vous rendant dans un salon.
Mais je suis allé au grand salon de l'industrie à Villepinte. Parce que je suis là pour vous faire rêver aussi, finalement. Notamment, je vais vous parler de l'industrie du futur.
4.0, c'est une nouvelle révolution.
Mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes clairement pas prêts. À cet ancien près, l'industrie.
Ah, et la masterclass cinéma du jour. Alors que le festival est ouvert, donc grosse responsabilité. La Master Jupiclass, vous êtes assurée, proposée, offerte par Nicolas et Bruno. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour la France Inter.
Bonjour.
On est très contents d'être là.
En fait, ils lisent le bottin, on rit déjà. C'est absolument hallucinant. Vous allez nous faire découvrir le film qui a littéralement transformé votre vie. Ouais, qui a bouleversé votre vie à tous les
absolument,
deux.
Absolument.
Et c'est pourtant un film à très petit budget.
Aucune des deux prods ne veut payer le déplacement. Donc je lui dis quoi, moi, à mon acteur?
Dimitri Couillas. Ouais. Je lui ai dit de changer de nom, puis la première fois.
Et voici Alex Vizorek.
Mais oui, laissez-moi vous présenter les deux derniers autour de la table de référence dans leur domaine. Déjà l'archéologue sonore de la Belgitude. Celle qui vous fait écouter vos voisins belges pour être certain que vous n'ayez jamais, amis français, envie de les envahir. C'est vous, Laurence Bibot, bonjour.
Bonjour, eh bien écoutez, on va entendre la voix d'un gros dégueulasse à la côte belge.
Oh là là.
Ça vous donne envie?
C'est hyper vendeur, j'aime bien. Et ensuite, c'est une référence en matière de musique non référencée. C'est vous, Djoubaka, bonjour.
Bonjour tout le monde.
De quoi on va parler?
De Pilana.
Non.
De Pilani Boubou.
Même vous, vous savez pas le dire.
Mais si, mais en fait, j'étais resté sur le.
Pilani, votre c'est le pluriel, c'est quand ils sont plusieurs.
C'est pour ça.
Quand
ouais. Seul, non, mais j'étais resté sur une blague d'Alex, c'est pour ça.
Faut jamais rester sur une blague d'Alex.
Non,
ne faites pas
je
ça.
Sais,
faut français. Dire aux auditeurs, les autres ne restent
Pilani,
pas.
Pilani Boubou.
Non,
voilà.
Fuyez.
Ajoutez à cela un journal en liquidation, des exercices en adéquation et un dessin en fabrication, et vous obtenez une émission qui attend son nouveau ministre de l'Éducation.
Ah oui. France Inter, Charline Vaninacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiclass.
Au boulot!
Allez au boulot avec Nicolas et Bruno. Nicolas Charlet, Bruno Lavenne, parce qu'on ne cite jamais, rarement vos noms de famille.
Tout à fait.
Je ne vais déjà pas y aller. Votre voix résonne toutes les semaines, au moins dans cette émission, avec les messages à caractère informatif, bien sûr, de Canal+, qui s'achevait par...
qui sache.
C'était vraiment très intéressant.
Voilà.
Il ne savait même plus.
On vous connaît aussi pour le film, enfin le film Le Flim Livre. C'est un film et un livre à la recherche de l'ultrasexe notamment. Mmh. Et voilà que vous êtes au théâtre. C'est la première fois à la Comédie de Paris. Vous y êtes du mercredi au vendredi à 21h, le samedi à 17h et 21h. Avec quoi ? Un truc que tout le monde adore, qui est quand même Zaï Zaï Zaï, l'adaptation théâtrale de la BD de Fab Caro. Enfin, Zaï 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 Zaï, il y en a quatre. Hein.
Exactement.
C'est ça, hein, j'ai pas courir. C'est une lecture vivante avec Mathias Fédou, qui est musicien. Ouais. Alors, expliquez peut-être qu'est-ce qu'une lecture vivante. Je pense que beaucoup de gens connaissent le texte de Fab Caro.
Alors, ce n'est pas une lecture où on est assis dans des fauteuils avec des pipes et des lunettes à lire une BD à des gens qui pourraient très bien le lire eux-mêmes. En fait, c'est tout est dans le vivant. On fait plein de trucs, on projette en fait la BD case par case sur un écran géant au-dessus de nous, et en fait nous on est en dessous et on fait la bande son en direct. On fait toutes les voix, on fait les bruitages, on fait la musique, on chante, on danse.
Mais avec des objets. C'est
avec des petits objets. Tout à fait.
Et avec nos bouches.
Et avec nos bouches personnelles.
Qu'est-ce... Par exemple, un truc que vous faites avec vos bouches.
Ben, on parle, par exemple, et on chante aussi. Il y a des chansons. Il y a des chansons, on chante. Même si ce n'est pas du tout notre métier. Vous vous en apercevez quand vous voyez le spectacle.
Qu'est-ce que vous pourriez dire qui nous donnera envie de venir vous voir? À part que vous chantez mal.
Et alors, pourquoi est-ce que ce texte, cette BD de Fab Caro, se prête particulièrement à... Bah, à ce concept théâtral. Oui.
On partage beaucoup de choses avec Fab Caro. Oui. Cet amour de l'absurde et de, en même temps, parler de choses qu'on vit tous les jours, que ce soit l'absurdité du quotidien, l'absurdité d'une chaîne d'infos en continu, le choix d'un bouc émissaire. Tout d'un coup, tout le monde poursuit ce type qui n'a pas sa carte de fidélité. C'est le pitch. De l'histoire.
Ouais. Et puis on s'est aperçu en fait qu'on était quasiment cousins en fait, parce qu'on se retrouvait à rire exactement des mêmes choses avec Fab Caro. Alors on s'est dit, bon bah écoute, franchement on est cousins, on a dû être élevés ensemble à un moment, séparés à la naissance, ou il faut qu'on se rencontre. Et puis donc du coup on a fait plein de trucs ensemble, on a fait des séquences inédites dans le spectacle, on nous a fait des dessins, on a fait une séquence à la Cogip.
La Cogip qui était l'entreprise fictive du message à caractère informatif.
Exactement.
Et comme ça la boucle est bouclée.
Voilà, exactement.
Nicolas et Bruno avec nous, on va en reparler tout à l'heure, et puis on attend ce fameux film qui a bouleversé votre vie, hein, on se demande vraiment lequel c'est. Ouais. Et c'est bien d'emmener avec nous, je dirais, une chroniqueuse belge pour rappeler que nous, en ce moment, on a un gouvernement. Mais bon, parlons d'autre chose, Laurence Bibeau.
Tout autre chose. Alors, c'est quoi un Belge insoumis, en colère, qui refuse le compromis et la résignation? Un Belge révolté, anticonformiste, provocateur et souvent de mauvaise foi? C'est un Français, mais pas n'importe quel Français. C'est un Français en Belgique, mais c'est pas n'importe où en Belgique. Alors d'abord, ce Français, il s'appelle Rezer, Jean-Marc Rezer, dessinateur du Gros Dégueulasse, entre autres, publié dans Harakiri, Charlie Hebdo. Et Rezer est suivi par le réalisateur Jean-Pierre Berkmans, qui ne manquait ni talent ni d'humour quand, en 1976, il emmène Rezer à Blankenberg. Alors, comment vous dire Blankenberg? Blankenberg, c'est la station balnéaire la plus populaire de la côte belge.
Toute mon enfance.
Peu, hein, toute votre enfance.
Ah ouais, carrément.
Voilà. Eh bien, c'est un peu comme si tu emmenais Che Guevara dans un Leclerc, quoi. C'est un peu un choc de civilisation. Blankenberg, où dit-on, mais ça c'est bon pour toute la côte belge, la guerre a fait moins de dégâts que les promoteurs immobiliers.
Toute mon enfance.
J'ai peur qu'on arrive à une société de stérile, comme de qui sortent des choses stériles de ces immeubles. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas penser, on ne peut pas imaginer. Regarde comme ils s'en mettent à regarder dans les derrière leurs vitres. C'est affreux. Ils sont malheureux, ça c'est sûr et certain. Ils sont merdes.
Bon, c'est vrai. On n'est pas un peuple de révoltés ni d'insoumis. Alors j'ai une théorie. C'est une théorie qui est construite sur deux exemples. Donc je vous dis tout de suite, c'est pas une thèse, hein, c'est une théorie. Mais voilà, j'ose, je vous l'expose. Alors d'après mes observations, les habitants d'un pays finissent par ressembler aux animaux qui l'occupent. Prenons par exemple Ibiza, que je connais assez bien. Eh bien, les gens qui vivent à Ibiza toute l'année, je vous jure qu'ils finissent par ressembler à des lézards. Eh bien, pour les Belges, je trouve que les Belges ont fini par ressembler à des bovins. Et c'est pas une insulte. Parce que moi, j'adore les vaches. Premier degré, je trouve que c'est doux, c'est végétarien, c'est utile, c'est inoffensif. Et il ne faut pas grand-chose pour les satisfaire.
Vous venez souvent à Blankenberg ?
Plus de 40 ans.
l'habitude.
Hein. C'est l'habitude.
J'ai du bon air, c'est tout ce qu'il faut. Pas de télévision.
Pas de télévision. Le calme. Ici, on veut être relax.
Oui, parce que c'est chaud, l'Espagne.
J'étais malade un petit peu, alors je suis venu, le docteur m'a conseillé de venir ici à moi, me reposer.
Vous n'avez pas tout compris.
Si, il a été malade, le bon sens.
J'ai été malade un petit peu, je suis ici venu pour me reposer. J'ai beau l'avoir entendu en boucle, j'ai toujours pas tout à fait compris. J'ai entendu les mots malade, hôpital, bon air, santé. Bon, c'est des préoccupations de vieux ou de belges, ou des deux. En tout cas, c'est des gens qui avaient décidé d'être relax. Et on fait quoi quand on est relax? Eh bien, on s'emmerde. Et on fait quoi quand on s'emmerde? On bouffe. Avec une moyenne sur la côte, mais sur toute la Belgique de 200 jours de pluie par an, je vous l'accorde, ça lâche largement le temps d'en éplucher des crevettes grises qui sont une des spécialités de la côte. Et surtout, surtout, de les tremper dans sa mayonnaise.
Là, tu as remarqué que les gens, comme ils sont gras, tous ces gens gras, tous ces gens gras, tous ces trucs, tous ces kilos en trop, en plus, et ces gens gras et gris, gros gras et gris. Ils sont foutus, ces gens-là. Ils sont foutus.
Ben oui, mais enfin, ironie du sort, bien que trop gros, trop gras, trop gris, je crains qu'il n'ait survécu à Rezer, qui, hélas, est mort beaucoup trop jeune. Alors, enfin, rendre hommage à la férocité et à la lucidité de ce dessinateur, c'est aussi rendre hommage aux dessinateurs de BD qu'on a aimés, qui nous ont construits, qui nous ont amusés, comme, on est d'accord, tous à mon avis, autour de cette table, comme Dieu Franquin, qui, je le signale aux auditeurs qui ne seraient pas au courant, est actuellement au centre d'une bataille belge. Alors, en gros, Dupuis veut ressortir des Gaston, ok? Qui n'ont pas été dessinés par Franquin, lequel avait exprimé ne pas vouloir que Gaston lui survive. Mais voilà, que vaut la parole d'un créateur face aux promesses d'un croquantement? Ce sera au tribunal d'en décider. En attendant, j'ai beau me comparer à une vache, je signale au groupe Dupuis, passé depuis peu sous giron français, qu'une vache en colère, elle attrape des couilles. Et qu'une vache avec des couilles, ça s'appelle un taureau. Alors attention.
Laurence Bibot, merci Laurence. Et j'embrasse ma mamie et mes parents qui m'ont emmené toute mon enfance à Blankenberg. Hein,
ça, vous en êtes sorti. Hein.
Oui, on s'en sort, vous voyez. Voilà. On s'en sort.
Naître à Blankenberg, mourir à Paris. Oui,
c'est ça. Que le pas, un, deux, ancien combattant, Unasukiri. 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 Tu ne sais pas que moi, je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de camarades ouai. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand les armes pleurent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Avec le coup de matraque, tout à coup, patatra, cadavre. Le peuple, cadavre. Les militaires cadavres, les rois cadavres, les reines cadavres, tous les présidents cadavres, les ministres cadavres, tous les mondes cadavres, et moi-même cadavre. Marque le pas, un, deux, ancien combattant, on a sauté. Marque le pas, un, deux, ancien combattant. La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand viendra la guerre, tout le monde est affamé, oh. Quand viendra la guerre, tous nos enfants affamés, oh. Le coq ne va plus le coquer, coucourico. La poule ne va plus le poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Tout le monde ne va plus le footer, pousser le ballon. Cadavère, les joueurs, cadavère. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon.
patriote, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les gaz, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes chimiques, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les scouts, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les armes non conventionnelles, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand tombera la bombe, tout le monde est bombé. Oh.
Cadaver,
ton pays,
cadaver.
La France,
cadaver.
L'Italie,
cadaver.
L'URSS,
cadaver.
Les États-Unis,
cadaver.
L'Allemagne,
cadaver.
Les enfants,
cadaver.
Tout le monde est
cadaver.
Qui chante Ancien combattant, un titre programmé par Djoubaka, ici présent. Et nous sommes en compagnie de Nicolas et Bruno pour la Jupi Masterclass de cinéma.
C'est quoi le film ?
Ah ben. En attendant le.
Moi, je comptais partir avant la fin de l'émission, donc du coup, bon, je vais rester quoi.
C'est n'importe quoi. Allez, bah, concentrez-vous sur votre journal,
oui,
vous.
C'est prêt.
Oh là là.
Le ministère va vous manquer ?
Forcément, puisque si je suis resté pendant les 5 ans, c'est précisément parce que, à mes yeux, c'est une des plus belles missions qu'on puisse avoir au service de la
Mais
France.
Mais vous allez découvrir le terrain.
Le journal de presque 17h17.
Le terrain ?
Ici, surtout ce terrain. De là à de là.
On commence par les titres.
Selon Stanislas Guérini, Elisabeth Borne est, je cite, une personnalité qui sait naviguer par gros temps.
Et oui, et c'est exactement ce qu'on disait du commandant de bord du Costa Concordia à l'époque.
Anne Hidalgo veut faire du périphérique parisien une ceinture verte en réduisant le nombre de voies, en végétalisant 10 hectares de surface et en plantant 70 000 arbres.
Oui, sans doute une vengeance. Après s'être plantée elle-même à la présidentielle, elle s'attaque à 70 000 arbres.
Et des brèves.
Et bien sûr, Charline, comptez sur moi pour planter deux belles brèves en fin de journal.
Ah, moi, je comptais partir avant la fin du journal.
Bon, vous pouvez, mais dites quand même, et maintenant les brèves. Et
après,
vous pouvez écouter autre
chose. On revient sur les propos de Stanislas Guérini.
Oui, mais cette fois, c'est sur le choix LREM de présenter un candidat aux législatives condamné pour violence conjugale envers sa compagne. Et il a tenté la justification. Il était à France Info, Marc Fauvel, il ne croyait pas trop à tout ce qu'il racontait. Donc attention, écoutez, c'est une cascade, ne faites pas ça chez vous. C'est un truc de professionnel.
Il y a eu une dispute, il y a eu deux condamnations de part et d'autre, et je crois qu'on peut respecter ça. Moi, j'ai pris du temps pour savoir si, au fond, on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être capable de violence volontaire. Je crois, et j'en suis même infiniment convaincu, que ça n'est pas le cas. C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable... de violence sur les femmes.
Voilà. Alors, il faut respecter le fait qu'il soit condamné pour violence conjugale, mais c'est un honnête homme incapable de violence sur les femmes. Je conseille cette séquence à tous les étudiants en psychologie qui voudraient potasser un exemple concret sur la dissonance cognitive.
Autre réjouissance, passons à Marine Le Pen, invitée ce matin sur France Inter. Elle affirme qu'un élargissement de l'OTAN à la Finlande et à la Suède ne favorise pas la paix.
Eh oui, même les Scandinaves, elle en veut pas. Vous vous rendez compte ?
International, le Pentagone observe un nombre croissant d'objets non identifiés dans le ciel.
Oui, juste dire aux Américains s'ils nous écoutent que s'ils ont vu un truc voler dans le Var, c'est rien. C'est Éric Zemmour qui a été parachuté pour les législatives.
Le nouveau pôle judiciaire français chargé de ce que l'on appelle les cold cases a relancé déjà 107 affaires non élucidées.
Eh oui, il n'y a pas à dire, ça c'est très très malin de faire ça maintenant. Ressortir les cold cases en période de forte chaleur, c'est très futé.
Oui,
blague météorologique.
Passons au festival de Cannes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est apparu en visioconférence hier soir lors de la cérémonie d'ouverture.
Eh oui, c'était une toute belle séquence et je pense que dans la foulée du concours Eurovision, le jury présidé par Vincent Sans Lindon envisage de donner la palme d'or de la meilleure vidéo Zoom à l'Ukraine pour l'intervention de Zelensky.
La science le confirme, le cerveau des adolescents est programmé pour ignorer la voix de leur parents dès l'âge de 13 ans.
Et voilà, vos rires témoignent du fait qu'il fallait peut-être pas étudier le truc. Mais c'est scientifique, mais il n'y aurait pas besoin de la science pour arriver à cette conclusion. Tout le monde sait qu'à 13 ans, le cerveau de l'adolescent est programmé pour avoir très envie de faire une activité addictive qui rend sourd.
Science encore. Les scientifiques ont réussi à cultiver des plantes avec des échantillons de terre lunaire, ce qui tente à prouver que des végétaux pourraient pousser sur la Lune.
Et oui, dans quelques années, on va être bien surpris quand ce sera Thomas Pesquet qui animera L'amour est dans le prix.
Cyclisme maintenant, le coureur érythréen Binyam Girmay remporte la 10e étape du Giro, mais quitte finalement la course après un accident.
Il a fait une chute après le sprint à l'arrivée, il a glissé.
Non, il s'est blessé pendant la célébration de sa victoire en recevant le bouchon de la bouteille de Prosecco dans le gauche.
Et oui, ce que Juliette Tardot appelle une erreur de débutant.
Allez, merde. Les brèves et puis on se casse.
Les brèves, alors là c'est peut-être ma préférée de la saison, justice 2 points. L'émission Fort Boyard,
condamné à verser 10 000 euros à Francis Lalanne et à lui rendre son chapeau. Et oui. Et moi, tant qu'on lui rend pas sa guitare, j'ai plus confiance en la justice de ce pays.
Oui, c'est très intéressant, en tout cas. Oui, merci, c'était vraiment très intéressant, alors, je dirais.
C'est pas tout. C'est pas tout. Parce que super. Fort Boyard pourra, en revanche, et c'est là que voilà, ça valait la peine d'aller en justice, conserver la longue pipe en bois que M. Lalanne réclamait. Alors, on ne dit rien sur les cuissardes. Ça doit être un vide juridique.
Sans doute. Allez, la dernière.
Et la dernière en Serbie. Elle tronçonne les testicules de son mari et les cuisine. Ouais. Comme quoi, quand on va manger chez elle et si on dit « je crois qu'il y a une couille dans le potage », eh bien, c'est littéral.
Enfin, merci Alex Vizorek.
C'est ce qu'on appelle une passe décisive.
17h29 sur France Inter. Oui, parce que derrière, voilà. derrière, on parle d'un auteur que vous classez, Juliette Arnaud, dans la famille des affreux, nous disiez-vous, dont les chefs de file seraient Céline. Et lui, c'est celui dont vous allez nous parler, le tonton fantôme de la famille de ces écrivains qu'on peut considérer comme de salauds. Hein. Voilà. Maurice Sachs, vous poursuivez la lecture de son roman « Sabat, récit d'une jeunesse orageuse ».
Alors, j'aimerais vous dire que Maurice Sachs a intégré la famille des affreux au moment de l'occupation allemande, qu'il fut lâche, profiteur de guerre et sans morale dans un temps où, comme l'écrivait Renaud, il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin de toute façon. Mais vous n'êtes pas sourdingue, mon j'aimerais relever du conditionnel. Et Maurice Sachs, dès le début du roman, tente de s'en expliquer. Il revendique assez rapidement un état des lieux interne signé Baudelaire, sur pratique de se mettre derrière quelqu'un de très célèbre. Donc il cite Baudelaire qui disait « Sentiment de solitude dès mon enfance et au milieu des camarades surtout, cependant goût très vif de la vie et du plaisir ». Alors, le plaisir de Baudelaire et de Maurice Sachs, hein, bien sûr, d'abord et avant tout. Son plaisir à lui, Maurice Sachs, dans les années 20, bah, c'était facile, c'était les années folles. C'est pile le moment pour ça. Il est né en 1906. Il a 8 ans au début de la guerre, la Première Guerre mondiale, 12 ans à la fin, et il écrit « Nous devînmes adolescents dans le délire qui succéda à la paix ». Alors, quel délire ? Imaginez. Une croissance économique très très forte, une explosion artistique effarante, peinture, musique, littérature. Paris en est un des centres les plus incandescents, le cas incarnatif. Quartier, Montparnasse, une boîte de nuit, le bœuf sur le toit, une musique, le jazz. Paris, 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 Paris. Mais animé par beaucoup d'étrangers du monde entier. Modigliani, Picasso, Stravinsky, Archicep, Josephine Baker. Bref, le monde entier artistique est à Paname. Et c'est le feu minot, l'autoroute du plaisir. L'horreur de la Première Guerre mondiale, c'est mort, on oublie, fait péter le champagne et le plaisir. Et la fête, et la nuit, et le vertige. Et le désordre. Et sur la question du désordre, Maurice Sachs ne laisse pas sa part au chien avec un mot d'ordre qu'a très bien écrit Bachung, marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Alors oui, la nuit, Maurice Sachs ment. D'autant plus aisément qu'il avait, paraît-il, une conversation éblouissante. Il ment et il vole. Même ses amis, même l'ami parfait, c'est lui qui écrit l'ami parfait. Le plus gentil, le plus doux, le poète Max Jacob, d'origine juive, comme lui, homosexuel, comme lui, et qui avait embrassé passionnément le catholicisme. Maurice Sachs, il avait voulu ça aussi, embrasser passionnément le catholicisme. Il était même, avant la fête, avant les années folles, entré au séminaire. Il avait porté la soutane, et puis ôté la soutane. Pour cause de gros scandales, il avait jugé utile d'afficher sa liaison sur la Riviera avec un jeune Américain, mais en gardant la soutane. Bon, bah ça fait désordre. Mais voilà. Mais c'est ça qu'est Maurice Sachs. C'est l'enfant du désordre qui n'aime que ça et qui, dans le même temps, en souffre horriblement. Mais qui, dans le même temps, le reconnaît aussi. Il écrit dans le livre « Il n'y a pas d'être malheureux qui ne soit obscurément heureux de l'être ». Et puis les années 30 sont là, la fête est finie. Ça, c'est un autre chanteur, c'est Aurel San. Et tandis qu'Hemingway, qui célébrait Paris et la fête, va partir combattre en Espagne, Maurice Sachs, lui, est un ivrogne d'une lucidité effrayante. Il écrit « Ce que j'aimais tant dans l'alcool, c'était le brouillard qu'il faisait monter entre la conscience et soi, grâce auquel on se dissimulait à soi-même. » Plus loin dans le livre, il dit aussi « Je volais aussi pour boire, je rebuvais pour revoler, c'était un cercle infâme. » Et le cercle infâme n'en finit pas de grandir, alors qu'un temps mondial infâme et infamant commence. L'occupation, la collaboration, et Maurice Sachs, eh ben, il va continuer à faire de son pire. Oui, C'est une lecture horrifique et je ne dis pas qu'elle est nécessaire, je dis qu'elle l'a été pour moi et j'aimerais bien en discuter avec celles et ceux qui, malgré tout, voudraient lire Sabat. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci. Vous allez recevoir peut-être un petit peu de courrier sur Par Jupiter.
Mais tant mieux.
Ouais, tant mieux, mais bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup, Juliette Arnaud. On peut vous réécouter en podcast, je le rappelle, et podcaster toutes vos chroniques littéraires. Nicolas et Bruno sont avec nous. Zaï, parce que c'est 4 fois, d'après la BD de Fab Caro, est à la Comédie de Paris. J'allais vous demander, vous êtes un duo depuis combien de temps?
C'est très ancien.
Ouais, voilà. Alors, est-ce que sur scène, comment ça se passe? Est-ce que vous avez envie de vous challenger un peu parfois?
On se fait des petites surprises.
Oui, on se faisait la routine. Surprises.
Bah oui, c'était ça un peu l'expérience qu'on voulait vivre. C'était un truc qu'on n'avait jamais fait en fait, tous les soirs sur scène avec le même texte, mais alors du coup, on réfléchit à des petits trucs dans notre coin, on se fait des petites surprises.
Vous avez trouvé un moyen d'être tous les soirs ensemble en fait.
Exactement. Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est une énorme arnaque. On pensait qu'on allait travailler juste le soir et dormir pendant la journée. Mais non, en fait, on travaille pendant la journée, on travaille le soir aussi.
Ouais. C'est les 3-8, mais nous fait tu des fais bonnes tous journées. Les
8. Quel magnifique duo, Nicolas et Bruno, avec nous pour la Jupi Masterclass de cinéma tout à l'heure, bien sûr. Et puis, dans la troupe de Par Jupiter, il y a l'oncle Djoub, parce qu'il raconte toujours de très belles histoires dans sa chronique musicale, Djoubaka.
J'espère. Alors là, je vais quand même vous parler de la Joséphine Baker, qui raconte dans sa mémoire que la musique doit nous faire l'effet d'une invasion de fourmis sur les mollets. J'adore déjà l'image, elle est bien quoi. Et je vais vous dire que j'ai de plus en plus tendance à partager cet avis avec elle. D'ailleurs avec moi en fait, cela peut marcher avec le Sacre du Printemps, un morceau obscur de rockabilly, ou le nouvel album de Pilani Boubou. Elle vient d'Afrique du Sud, la voici à voix nue. Alors Pilani Boubou est né il y a quelques années avant la fin de l'apartheid dans un Bantoustan, c'est-à-dire, pour être plus simple, une région réservée, une sorte de foyer national où les ethnies d'Afrique du Sud pouvaient conserver plus facilement, paraît-il, leur culture et rester pauvres et sans liberté, mais entre eux. Hypocrisie quand tu nous guides, merci. Alors Pilani Boubou est comme Myriam Makeba, une coxa. Et dans leur langue, certaines consonnes prennent toute leur signification en cliquant la langue sur le côté du palais, tout en aspirant. C'est vachement dur à faire, je me suis entraîné pendant 2 jours, j'y arrive pas. Alors nous, on est bien calés dans notre fauteuil et on n'imagine pas que des millions de gens utilisent cette langue tous les jours et que des centaines d'artistes ont composé avec elle. Et la première fois que j'ai entendu cette sonorité percussive, joyeuse et vraiment étonnante, c'était dans la clique-song, justement, de Myriam Makeba. Mais Pilani Boubou, comme c'est une enfant de la balle, elle a pris son temps. Elle voulait dans un premier temps justement se consacrer au business, à la gestion des affaires, comme on dit dans le Figaro Echo. Mais après un rapide passage dans ce monde triste et sans pitié, elle a très vite compris qu'elle se sentirait beaucoup mieux à chanter avec les cigales et que là, elle pouvait devenir heureuse dans le monde des petites notes. Et donc, ses études quand même lui ont permis de créer son propre label. Ça veut dire qu'elle est complètement indépendante. Et quand elle a besoin de ronds pour monter ses projets qui vont pas leur apporter beaucoup de thunes, elle fait un peu de télé, elle présente des émissions, quoi. Mais quoi qu'il en soit, depuis 10 ans, en fait, elle gazouille sévère. Alors, Folklore, son dernier disque paru en France, est toute une histoire. En fait, c'est un parti pris. Elle a décidé de replonger dans la musique de son enfance, celle-ci même qui a permis à la culture, aux histoires, aux traditions des Coxas d'être préservée. Et son idée, c'est pas de coller 100% à cet héritage. Car dans ses textes, en fait, elle va exprimer une vision ultra contemporaine de la société dans laquelle elle vit. Par exemple, vous avez 2 chansons qui traitent de la masculinité. Et en Afrique du Sud, 60% des pères sont absents de la structure familiale. 60%. Donc elle chante pour ses femmes et ses enfants laissés de côté, là, comme une valoche abandonnée sur le quai de la gare. Elle chante aussi la douleur des gamins et des gamines perdus, comme ça, au repère brouillé, qui continuent quand même de subir les rites de passage vers l'âge adulte. Bon, voilà, la société, c'est compliqué, quoi. Et elle nous remet, comme ça, au goût du jour, notre relation à la nature, parce que le clic, c'est aussi les ailes des scarabées qui font des petits bruits. Et donc, c'est très, très présent. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui de la nature? Et dans quelle mesure, en fait, elle nous permet une connexion avec une forme de spiritualité? Alors, depuis quelques années, en Afrique du Sud, tout ce retour aux sources a été fait par une jeune génération, mais vers la musique zoulou. Ce changement de braquet vers les sons Coxa raconte aussi un manque. Et pourtant, ce son, ce clic, qui est produit par la langue et la résonance de notre palais, comme une percussion, a été un des moteurs du beatboxing dans la culture hip-hop. Et sur les premiers enregistrements de jazz, ceux de Laurence Olivier,
J'étais surpris, j'en connaissais un. Je me suis dit, c'est pas normal.
C'est encore une blague d'Alex, de Monsieur Olivier, dont vous retrouverez dans la liste des musiciens et de leurs fonctions, des gars dont le boulot était de fournir au groupe des mouse percussion, des percussions de la bouche. Et tout cela nous rappelle une fois encore l'influence en fait des musiques africaines sur certaines musiques populaires depuis plus d'un siècle. Et Pilani Boubou remet les aiguilles à l'heure sur l'horloge, et c'est toujours bien de rappeler ce genre d'évidence. On va écouter, alors là je peux pas le faire avec... mais alors ça s'appelle Congo Noité. Je vous le fais sans les clics, ça s'appelle Congo Tané, le titre, et l'album s'appelle Folklore. Voilà,
ouais, premier chapitre.
Ouais, c'est super.
Magnifique.
Et on attend le deuxième chapitre, pas quand.
Nicolas et Bruno, vous avez une question, je pense,
mais
Bruno.
Est-ce que ça n'est pas cette espèce de langue étrange qu'on entend dans.
Les dieux sont tombés sur la tête. Un film du début des années 80 qui a très très mal vieilli.
Absolument.
C'est une bouteille de coca qui arrive dans un désert de Calari, je crois, et ça change la vie des gens. Bon, on n'est pas obligé de le revoir, je crois, là, avec le temps, là, ça fait mal.
Là, quand on l'entend chanter, elle fait ses bruits tout en chantant.
Tout à fait, mais comme un beatboxer, il peut avoir plusieurs bruits dans la bouche, plusieurs sons en même temps. Ouais, elle appuie les consonnes en fait. Et je crois qu'il y a une distinction entre le haut du palais, le bas du palais, derrière les dents, etc. Il y a une dizaine de façons de faire fonctionner les consonnes.
Ah bah, donc je vais déjà me concentrer sur mon mi bémol et puis je vais mettre.
Ça m'a excité.
Alex, l'actu bouge sans cesse. Concentrez-vous. L'actu, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors Stanislas Guérini, à mon avis, nous écoute. Il s'est réentendu et il s'est dit j'ai peut-être dit une connerie. Je mesure que mes propos.
voilà, ceux que j'ai tenus ont pu heurter et blesser. Je réaffirme avec force notre engagement total à la majorité présidentielle pour soutenir la libération de la parole des femmes. Et donc, en fait, il a demandé au candidat de se retirer, le fameux candidat qui était, retiré. candidat LREM qui était accusé, enfin, qui avait été condamné pour violence, aux femmes, et c'était la sienne de femme, en l'occurrence.
Bon, ben voilà.
Ah ben voilà. Ah ben voilà.
Vous dites bonne nouvelle.
C'est la première fois qu'on fait vraiment de l'actu.
Ça sert pas à rien, en fait, cette émission.
On pense que c'est arrivé avant. Mais bon,
c'est la haute news. C'est la haute news.
Quand même préciser.
Bah oui, bien sûr. Quelle honnêteté. Dites-nous d'ailleurs, quelle voix on a entendue là? Qui est là aujourd'hui?
La merveilleuse voix de Laurence Bibot, exceptionnelle. Juliette Arnaud, Djoubaka, qui a choisi un bon disque. On a toujours noté ça quand même dans nos tablettes. Il nous reste la très attendue masterclass de Nicolas et Bruno. Mais avant ça, celui que toutes les radios de France nous envient, mais qu'aucune ne vient chercher, c'est Guillaume Meurice.
Eh bien oui, je vais vous parler du temps de travail aujourd'hui, parce que la France travaille beaucoup. Alors nous ici, on fait quand même un maximum pour baisser la moyenne, évidemment. On a même fait venir de la main-d'œuvre étrangère, par exemple Mme Bibot, hein, qu'on paye moins, bien sûr, mais vous avez moins besoin de choses aussi en Belgique, vous viviez comme ça d'amour et de somme. Mais sinon, selon les chiffres, la France travaille énormément. Hein. Moi, j'ai refait les calculs. Enfin, plus exactement, j'ai demandé à notre stagiaire Camille de faire des calculs. Parce qu'au bon niveau de travail, je suis croyant, mais pas pratiquant de ouf. Et Camille, c'est la seule qui bosse vraiment dans tous les tâches. Il faut quand même lui rendre hommage aujourd'hui. Je dis pas qu'écouter des disques de blues en buvant du whisky n'est pas un travail. J'apprécie d'autant plus ce que vous faites que vous me faites peur physiquement. Mais voilà, on travaille beaucoup, beaucoup en France. Alors, on est aidé aussi en France par la technologie. On a du numérique, on est aidé par des machines, comme celle que j'ai vue ce matin au grand salon de l'industrie. Figurez-vous, à Villepinte. Oui, j'étais à Villepinte ce matin. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Désolé de vous en foutre plein la vue comme ça. Voilà, demain peut-être Meudon, Villetaneuse. YOLO, comme on dit, YOLO. Alors j'y suis allé pour parler donc de travail, vous l'avez compris. Et puisque je vous parlais des Belges, commençons par un industriel belge qui se pose des questions.
Là, on est chaque fois, nous, en tant qu'industriels, un peu confrontés à des interrogations. Il y a tellement de chômeurs chez nous, mais quand c'est pour les faire travailler, on a du mal, quoi. Hein. Donc là... Mais quand vous annoncez que vous travaillez en deux postes, voire trois postes, là, ils s'en courent. Hein.
Ils s'en quoi?
Ils s'en courent, les jeunes, maintenant.
Mais oui, les jeunes s'en courent, hein, maintenant. Ouais. Commencez pas à remplacer notre langue.
Il y a suffisamment à dire
langue.
Sur le fond.
Non. Ça va partir en fichti, en GSM, en tu saurais me passer le sel et toutes ces conneries. On va plus rien piger. Allez, commencez pas à plagier nos plus beaux discours de les jeunes foutent rien. Ce j'ai posé la question.
Alors, ça veut dire que la Belgique, c'est un peuple de feignasses?
On peut le dire comme ça, oui. Bon, les jeunes, maintenant, bon, c'est leur confort avant et après, ben... Ils sont trop bien payés au chômage.
Ou alors, ils ne sont pas assez bien payés dans l'industrie.
Non.
Bon, je tentais le coup quand même. Hein, voilà, parce que des fois, on se demande pourquoi ceux qui se sont endettés pour faire des études, ils ne veulent pas être payés au SMIC. Bon, si ça se trouve, c'est une question d'argent. Hein. Vous savez comment sont les jeunes? Ils aiment la moulaga. La moulaga, comme disent les vieux qui veulent faire croire qu'ils ne le sont pas. Comme Alex quand il dit Jones. Pourtant, d'ailleurs, des Jones qui bossent dans l'industrie, j'en ai rencontré ce matin.
On développe donc une solution PLM Cloud pour les entreprises industrielles, qui est simple d'utilisation et rapide à déployer.
PLM Cloud?
Un PLM Cloud, exactement.
Qu'est-ce que c'est exactement, là?
Alors, PLM, ça signifie Product Lifecycle Management.
Bon, je savais, mais voilà, je pense aux gens qui nous écoutent, qui sont profs de français à la retraite, et qui viennent donc de faire une mini descente d'organes, hein, bien évidemment. Et c'est ça aussi l'industrie du futur, c'est que tout va plus vite. Écoutez, cette entreprise qui avant, sans numérique, mettait 5 heures à faire une tâche.
On a réduit ces 5 heures à moins de 5 minutes.
Ah ouais?
On envoie l'offre directement, on a un moteur de génération de PDF qui permet au client, sous une semaine, de pouvoir signer son offre et de la remonter automatiquement à l'ERP pour déclencher la fabrication de la machine, des pièces, les commandes, automatiser toute cette partie-là.
Est-ce que comme ça facilite le travail, est-ce qu'il ne faudrait pas travailler moins longtemps?
Non.
Bon, voilà, je pose des questions. Moi, je me disais, comme ça remplace de la main-d'œuvre, on peut peut-être, pendant ce temps-là, glander, en profiter pour glander ou profiter de la vie. Hein, ce que les techniciens de France Inter appellent un jour de travail normal, finalement. Voilà. Et bien, figurez-vous que non, les machines ne servent pas à ça.
Non, là, elles nous servent à mieux travailler.
Ouais, mais nous, on voulait moins travailler.
Ah bah là, pour le coup.
Quand une machine remplace 4 ou 5 ouvriers, est-ce que...
Je ne pense pas qu'un robot va remplacer 5 personnes sur la chaîne.
Bah, est-ce que ce n'est pas déjà le cas?
Je ne me suis jamais réellement posé la question.
Faudrait. Ça vaudrait peut-être le coup de se la poser. La réponse peut être surprenante. En plus, une machine, ça ne fait pas grève. Il n'y a pas de CGT machines qui font des merguez numériques. Voilà. Si ça se trouve, c'est ça que les patrons, ils aiment bien. Moi, Moi, je pose la question. Je pose juste des questions. Moi, je pose ça là, comme on dit sur les internets. Et je me disais, si une machine remplace le travail de 5 humains, est-ce qu'on répartirait pas le travail restant? Et qu'est-ce s'appelle Rio? Le progrès, finalement. C'est une question comme ça. Je la pose là. Tiens, je suis retourné voir notre ami belge. Alors, est-ce qu'une machine remplace pas les gens?
Non.
Mais quand même, non. Ça remplace des gens. Enfin, vous avez besoin de moins de personnel?
Non, non.
Pas du tout?
Non, pas du tout.
Alors, ça veut dire que les machines ne servent pas à grand-chose?
Si, parce que comme les machines vont de plus en plus vite, ça permet de faire beaucoup plus de travail que ce qu'on faisait par avant.
Mais est-ce qu'on a besoin de produire autant de trucs et de machins?
On surfe sur cette voie-là.
Eh ben, surfons. Allez, surfons, on prend notre petite planche et puis on y va, on surfe sur l'industrie, le PIB, la croissance infinie. Voilà, noyons-nous dans le boulot, fabriquons toujours plus de conneries. Surfons cette vague avant qu'on se la prenne en pleine gueule.
Merci Guillaume Meurice avec ce magnifique extrait qui finira peut-être un jour dans une chronique de Laurence Bibot parce que
c'est tout vrai. Se recycle.
Oui, j'ai l'impression. Hein,
vous notez qu'il n'essaye pas de vous embobiner.
Non, il va directement. Ouais. Voilà, les jeunes veulent plus bosser et les machines, c'est fait pour fabriquer des trucs.
Guillaume, merci d'être allé jusqu'à Villepinte. Vraiment, vous donnez beaucoup pour cette émission.
Non, c'est une belle ville aussi. Hein.
Ça me touche. Bah oui, bien sûr.
Architecturalement, il y a quelque chose qui se passe.
Allez, on va passer aux exercices, les amis. Alex.
Mais oui, toutes les chaînes d'infos sont en boucle pour les prochains ministres du gouvernement. Quand est-ce qu'on va le savoir? Comment? Quels seront les postes? Alors, l'occasion de faire un petit point dans la liste suivante. Trouve les ministères qui ont déjà existé pendant la Ve République. Alors, réponse A. Il y a eu un ministère du redressement productif. C'était Benjamin Griveaux, si je ne me trompe.
Réponse, j'ai compris la blague.
Bah, je fais semblant que je savais pas. Et je mets un petit nom pour une petite blague grivoise de qualité. Réponse B. Il y a eu le ministère de la qualité de vie. Par exemple, Patrick Balkany. Réponse C. Il y a eu... ça remonterait, il y aurait eu un ministère de la culture en France à une période, et là, pas de nom comme ça qui me vient. Et réponse D, il y a eu le ministère du temps libre, et c'était apparemment Pénélope Fillon qui en était à la tête.
La crypto-monnaie Luna a perdu 100% de sa valeur en quelques jours, conduisant nombre d'investisseurs à la ruine. Dans la... Bah oui,
c'est beaucoup, hein, 100% c'est beaucoup.
Et voilà, petite crypto partie trop tôt. Dans la liste suivante, trouve les éléments qui ont perdu 100% de leur valeur du jour au lendemain. Petit A, Taab ou Afs. Petit B, le compte en banque de Valérie Pécresse. Petit C, Europe 1. Petit D, les brèves d'Alex Vizorek.
Oh,
même si la valeur de départ n'était pas très haute.
Ça va monter, ça va monter.
Ça va pas vraiment s'effondrer, ça.
De départ.
Ouais. Guillaume.
Vous l'avez rappelé dans l'excellent journal de 17h17, le Pentagone signale un nombre croissant d'objets non identifiés dans le ciel. Mais quels sont ces objets? Est-ce que c'est réponse A, Jean Castex qui va chercher du pain en Falcon? Est-ce que c'est réponse B, la carrière politique d'Arnaud Montebourg, qui, rappelez-vous, est bien décollé? Et puis depuis, on ne sait pas où elle est. Réponse C, la crédibilité de Stanislas Guérini, ainsi que son charisme, son honnêteté intellectuelle et ses cheveux. Ouais, on n'a dit pas le physique, mais quand même, il a bien cherché aujourd'hui, il a bien cherché. Ou réponse D, si vous aviez écouté la question, vous auriez su que ce sont des objets non identifiés, donc on n'en sait rien. Réfléchissez un peu, on ne peut pas toujours être là, enfin.
Oh là là,
qu'est-ce que vous m'énervez des fois aussi, là?
Il est bon. Voilà. Il est bon.
On sent une tension comme ça. Ça doit être la chaleur.
Non, ça m'agace.
Bon, Nicolas et Bruno sont avec nous et on attend la Jupy Masterclass.
C'est quel film.
On va savoir.
Attendez.
On va savoir bientôt. En attendant, Cannibal, Life is Dead. Non, c'est foutu. Tout est foutu. Alors, on est foutu là. Mais c'est Life is Dead. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute.
Quand on est foutu,
on écoute la radio. You want me dead. Now I am dead, sir. I am upset. I want you dead, cause I am upset. Now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Killed you and then you said I want to kill you despite I'm dead. Don't worry, you will get yours. Then I died and because of that it incapacitated me to live. Then I died and because of that it incapacitated me to live. Don't worry. C'est sur la playlist France Inter, Life is Dead, et une programmation musicale de l'oncle Djoubi qui est parmi nous aujourd'hui. Nicolas et Bruno aussi sont là et on est trop trop joyeux de vous accueillir pour vous céder le micro pour une Djoubi Masterclass de cinéma.
Vous avez la parole, prenez-la mon vieux.
Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première chronique radiophonique de notre vie.
Alors, on a décidé de vous parler d'un film qui a eu un impact gigantesque sur notre relation au cinéma. C'est un film américain de 1989, réalisé par Fred Salinger, et dont le titre est The Hidden Customer. Alors, ça ne vous dit absolument rien, c'est normal, puisque c'est un film extrêmement rare, qui n'est d'ailleurs jamais sorti en salle. Bon, en même temps, c'est pas très étonnant, puisqu'il s'agit d'un film d'entreprise, en fait. Le client caché.
Alors, vous le connaissez quand même un peu, parce que c'est un film que nous avions détourné pour un de nos messages à caractère informatif sur Canal+. Souvenez-vous, ça donnait ça.
Ici, à la Cogip, c'est comme au ping-pong. Sauf que les balles sont des dollars et que les raquettes sont des dossiers.
Eh bien, figurez-vous qu'on a fait une énorme connerie. Un truc qu'on s'était juré de ne jamais faire. Un jour de désœuvrement au bureau, on a décidé d'écouter la bande-son originale du film initial. Parce qu'on sentait que ce film avait quelque chose à nous dire.
On a appuyé sur la touche play de notre magnétoscope VHS et on a découvert ça exactement sur les mêmes images.
Chacun de nous contribue à la réussite de l'entreprise.
Alors, attendez, stop. Incroyable, ce film américain était en français. The Hidden Customer avait déjà été doublé précédemment par d'autres personnes que nous. À peine remis de ce cataclysme, on a écouté la suite. Une séquence de dialogue entre un client et un fournisseur.
Mais vous m'avez dit aujourd'hui, c'est bien marqué sur le reçu. C'est pas prêt. Et pourquoi c'est pas prêt ?
Ok. Jamais on n'aurait imaginé ça. On était en fait dans un film qui explose totalement tous les codes cinématographiques, qui pose la question « Et pourquoi c'est pas prêt ?» Et là, Fred Salinger pourrait très bien nous laisser comme ça, « Démerde-toi avec cette question et puis c'est tout. » Eh ben non. Il nous donne des pistes, il nous donne des réponses. Écoutez plutôt.
Bon, non, non, pas les pièces. C'est pas moi qui commande les pièces.
Voilà pourquoi ce n'est pas prêt.
Magistral. Et le tout, vous l'avez entendu, avec une direction d'acteur, un ton, un rythme, une BO qui vous prend aux tripes. The Hidden Customer, c'est ça. Un cinéma généreux, un cinéma qui nous aide à vivre. Jugez plutôt.
Alors, traiter les autres comme on aimerait être traité soi-même, c'est ça, la relation client-fournisseur interne.
Voilà. Un cinéma qui ne prend pas du tout ses spectateurs pour des employés décérébrés en leur parlant comme à des enfants de 5 ans. Mais en attendant, on n'a toujours pas la réponse à la question centrale. Qu'est-ce que c'est que le client caché ? What is the hidden customer ? Et là, on apprend soudain, au bout de 48 minutes de cauchemar, enfin pardon, de bonheur intense, dans un paroxysme de suspense narratif insoutenable, qu'en fait...
Il n'y a pas de client caché. Oh.
Bingo ! C'était donc ça ! Depuis le début, il n'y avait pas de client caché. Alors là, on est en plein effet usual suspect. Hein. C'est qui a tout pompé à The Hidden Customer.
Mais surtout, l'énorme choc, le choc principal, c'est qu'on s'est rendu compte que la bande-son originale était en fait beaucoup plus drôle que ce qu'on en avait fait en la détournant. Vertigineux. Et si nous avions fait 376 messages à caractère informatif qui n'auraient servi à rien du tout.
Alors bon, vous l'imaginez, énorme dépression, on a tout arrêté pendant 40 ans, ouais. Jusqu'à ce qu'on décide, il y a 3 semaines, de monter sur scène.
Et c'est là que notre chronique se transforme en prise de tâche promotionnelle.
Absolument. Monter sur scène pour faire du cinéma en direct. Un procédé scénique qui consiste à projeter sur écran géant les cases de la BD Zai 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 de Fab Caro et d'en faire la bande-son en direct. direct, en interprétant tous les personnages, en faisant nous-mêmes tous les bruitages, le tout mis en musique et en chanson par notre comparse Mathias Fédou.
Un truc de fou.
Une immense rigolade.
On adore ce spectacle. Un autokiff magistral qui pose la question: est-ce que nous ne serions pas nous-mêmes les clients cachés de notre propre travail ?
La boucle est bouclée.
À vous, cognac, j'ai.
J'avais dit qu'on chantait mal, hein.
Ouais. Nicolas et Bruno, Nicolas Charlet, Bruno Lavenne. Donc zaï, 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 vous l'avez dit. Et c'est à la Comédie de Paris, du mercredi au vendredi à 21h, le samedi 17h et 21h. Et c'est jusque quand pour l'instant ?
Jusqu'au 9 juillet, je sais pas si on a toujours notre voix.
Waouh, ok, très bien. Bon, ça laisse encore un peu de temps, heureusement, puisqu'on est le 30 juin déjà, non ? Allez, le petit dessin à l'aide d'objets, et notamment de Playmobil ou de petits poneys.
Oh oui. Oh.
Amuse-toi à former un gouvernement et envoie-nous la photo du gouvernement.
Oh, c'est trop mignon.
Par Jupiter, @radiofrance.com. N'oublie pas le lissage brésilien du petit poney.
Oh, j'espère qu'il va pas y être.
Merci à tous les amis. C'était un plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous dis à demain. Nous recevrons la romancière à succès, Virginie Grimaldi, l'écrivaine aux millions de livres vendus.
Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million?